The DYC Code. Une lecture de la bibliothèque de C. Voici le premier tirage au sort par ordre d'apparition des textes. 944-08, 20e siècle. L'Exode, mai-juin 1940 de Pierre Vallot. Puis, roman science-fiction. Lettre D.Y. Vers la lumière, d'Andrei Diakov. Et enfin, 570. Écologie-biologie. Écologie et liberté d'André Gorce, paru dans l'anthologie Les grands textes fondateurs de l'écologie, présenté par Ariane de Bourdeau. Épisode 1. Nous savons que notre mode de vie va finir. Mesures de protection contre les effets des bombardements aériens.
Soufflant lourdement, les stalkers progressaient au pas de course sur l'asphalte émietté.
Tout citoyen a le devoir de se préoccuper du danger aérien et de prévoir la conduite qu'il aurait à tenir, lui et sa famille, en cas d'attaque aérienne. Ce danger sera d'autant plus réduit que chacun observera avec discipline quelques règles simples. Précaution à prendre dès l'alerte donnée. A. Si l'on est à son domicile, éteindre toutes les lumières. Fermer les compteurs individuels de gaz et d'électricité, mais ne pas fermer le robinet de la grosse conduite de gaz alimentant l'immeuble. L'extinction est obligatoire. Fermer fenêtres et volets. Se munir de son masque.
Tiens, nous voilà sur la Kronstadtskaya Podchat.
Ne jamais séjourner dans les étages supérieurs d'un immeuble, ni dans une cour, ni dans la rue. Gagner sans hâte, mais sans retard, l'abri le plus proche. Obturer les issues de l'abri avec deux couvertures humides tendues à 2 mètres l'une de l'autre et les soupiraux avec des éléments d'étoffe épaisse et humide. Étayer si possible avec des madriers les plafonds des caves. B. Si l'on est loin de son domicile. Gagner sans hâte, mais sans retard, l'abri le plus proche.
Une supposition terrifiante lui fit braquer sa lampe vers le plafond.
Tous les moyens de défense seront mis en œuvre pour arrêter les avions ennemis. Cependant, quelques-uns peuvent passer. N'attendez pas qu'ils soient au-dessus de vous. Partez. Si rien ne vous retient dès la première menace sérieuse, partez. Si vous avez en province des parents, des amis, une maison, une cabane, partez avec votre famille. T'endors pas, morveux, bouge, bouge. Vous reviendrez dès que le danger sera passé. Ne vous encombrez pas. Prenez seulement des effets et des vivres. N'attendez pas, partez. Partir à temps, c'est éviter l'encombrement.
Soufflant lourdement, les stalkers progressaient au pas de course sur l'asphalte émietté. Le long de voitures qui semblaient avoir pris racine, de panneaux publicitaires tordus et de câbles électriques déchiquetés. Seuls, les gratte-ciels abandonnés rappelaient la grandeur passée des hommes. Au milieu des pistes d'animaux inconnus, des tas d'excréments et d'une végétation luxuriante, les îlots de bâtiments avaient un air incongru et déplacé. Gleb ne parvenait pas à croire que l'homme avait régné sur ces lieux en maître incontesté, sans parler de ces histoires de conteneurs d'eau si propres qu'il était possible de s'y baigner, et de ces parcs où, à la place des prédateurs sournois, se promenaient des couples d'amoureux. Peut-être les histoires de Palitch n'étaient-elles que des mensonges. Au loin, apparut un champ envahi de denses broussailles épineuses, vers lequel convergeaient simultanément plusieurs larges routes asphaltées.
« Tiens, nous voilà sur la Kronstadtskaya Podchat, »
dit Condor en vérifiant leur position sur la carte.
« C'est bon signe. Peut-être qu'on arrivera même jusqu'à Kronstadt. N'attire pas le malheur, commandant, »
fit Chaman. Quand ils dépassèrent un bâtiment tordu en forme de boîte, portant l'enseigne Maxidome, le stalker répondant au surnom de Grémille, ralentit le pas.
On devrait peut-être faire une reconnaissance puisqu'on passe juste devant. Il y a sûrement de quoi agrémenter l'ordinaire.
Non, lâcha laconiquement Taran. Condor fusilla leur guide d'un regard en biais et bifurqua vers le supermarché. On y jette un œil.
C'est-à-dire ?
On y jette un œil. La main du commandant se crispa sur sa kalachnikov. L'échange de lourds regards dura quelques instants. Cette fois, Taran céda, décidant de ne pas saper l'autorité du militaire borné. Les combattants approchèrent de la construction abîmée, entourée d'épaisses lianes brunes. Gleb ne manqua pas de remarquer que son mentor fit imperceptiblement glisser son AK-74 plus près de lui, sans quitter des yeux la gueule noire de l'entrée du bâtiment. Se déplaçant précautionneusement dans le chaos des caddies renversés, les stalkers allumèrent leurs lampes frontales. Les faisceaux éblouissants arrachés aux ténèbres des rayonnages effondrés et des amoncellements de boîtes, de papiers d'emballage et de cellophane. Tout était recouvert d'une épaisse couche de crasse blanchâtre. En y regardant de plus près, Gleb vit que cette croûte n'était pas uniforme, mais composée de millions de... On eût dit la fiente qui tapissait la cage où Nata, son amie de la Moskovskaya, gardait son animal domestique, un petit moineau gris. Une supposition terrifiante lui fit braquer sa lampe vers le plafond. Son mentor, qui semblait avoir atteint les mêmes conclusions, leva sa lampe de conserve. Très haut au-dessus de leur tête, comme un tapis mouvant recouvrant le plafond, se pressaient des organismes à la peau huileuse noire de jais. Taran fit des gestes désespérés pour attirer l'attention des autres stalkers. Ils reculèrent, terrifiés, pourtant sans bruit ni murmure. Mais, alors que la sortie n'était plus qu'à quelques pas, un hurlement d'effroi d'Iscarii déchira le silence. Un véritable enfer se déchaîna l'instant suivant. Des cohortes ailées de vespertilions quittèrent leur perchoir en un battement de cils pour se précipiter vers l'extérieur en une masse compacte. Les stalkers s'éloignèrent du magasin en courant. La gueule de l'hypermarché vomissait une gerbe noire ininterrompue et dense de corps ailés qui montaient vers les cieux. Un brouhaha terrifiant accompagnait le spectacle. La tache sombre s'étala dans les airs. Des tirs désordonnés claquèrent ici et là, alors que les hommes battaient en retraite. Puis, les uns après les autres, les chauves-souris attaquèrent le détachement en piqué. Les corps noueux des suceurs de sang se mêlèrent pour ne plus former qu'un voile gris. Un coup violent dans le dos renversa Gleb. Le garçon roula sur lui-même. Une gueule repoussante masqua le ciel. Taran, d'une frappe sèche, arracha la monstruosité, puis tira à bout portant. « T'endors pas, morveux, bouge, bouge !» Le garçon bondit sur ses jambes et s'élança à la suite de son mentor. Les injures et les douilles pleuvaient autour de lui. « En arrière, j'ai dit, en arrière, vers les murs !» Aussi étonnant que cela pût paraître, les stalkers obtempérèrent. Le détachement se rua vers l'hypermarché et contourna le bâtiment en longeant les murs. Les chiroptères voltigeaient au-dessus de leur tête, mais, sans espace pour manœuvrer, ne pouvaient plus lancer d'assaut. Sans marquer de temps d'arrêt, le détachement longea l'Université technique maritime de Saint-Pétersbourg.
Les terres sans fertilité naturelle.
À en juger par les nombreuses traces de suie sur les murs, l'université avait connu un grand incendie.
L'air étouffant dans les villes.
Désormais, seul le vent errait dans ces lieux réduits en cendres.
Les mers et les fleuves seront stériles.
Pourtant, même ainsi, ce qui restait de l'université rendit un fier service aux hommes. Arrivé à l'extrémité des bâtiments, à une distance respectable de l'antre des vampires,
à long terme, nous serons tous morts.
Ils reprirent leur souffle.
Nous savons que notre mode de vie actuel est sans avenir. Que les enfants que nous allons mettre au monde n'utiliseront plus dans leur âge mûr ni l'aluminium, ni le pétrole. Que, en cas de réalisation des actuels programmes nucléaires, les gisements d'uranium seront alors épuisés. Nous savons que notre mode de vie va finir, que si nous continuons comme par devant, les mers et les fleuves seront stériles, les terres sans fertilité naturelle, l'air étouffant dans les villes, et la vie, un privilège, auquel seuls auront droit les spécimens sélectionnés d'une nouvelle race humaine, adaptée par conditionnement chimique et programmation génétique à la nouvelle niche écologique que les ingénieurs biologistes auront synthétisée pour elle. Nous savons que depuis 150 ans, les sociétés intra-industrialisantes vivent du pillage accéléré de stocks dont la constitution a demandé des dizaines de millions d'années, et que jusqu'à ces tout derniers temps, les économistes, qu'ils fussent classiques ou marxistes, ont rejeté comme régressives ou comme réactionnaires les questions concernant l'avenir à très long terme, celui de la planète, celui de la biosphère, celui des civilisations. À long terme, nous serons tous morts, disait Keynes, pour expliquer par une boutade que l'horizon temporel de l'économiste n'avait pas à dépasser les 10 ou 20 prochaines années. La science, nous assurait-on, découvrirait de nouvelles voies, les ingénieurs, de nouveaux procédés encore insoupçonnés aujourd'hui. Mais la science et la technologie ont fini par faire cette découverte capitale. Toute activité productive vit des emprunts qu'elle fait aux ressources limitées de la planète et des échanges qu'elle organise à l'intérieur d'un système fragile d'équilibres multiples. Il ne s'agit point de diviniser la nature, ni de retourner à elle, mais de prendre en compte ce fait. L'activité humaine trouve en la nature sa limite externe. Et à ignorer cette limite, on provoque des retours de bâton qui prennent, dans l'immédiat, ces formes discrètes, encore si mal comprises. Nouvelles maladies et nouveaux mal-être, enfants inadaptés, à quoi ? Baisse de l'espérance de vie, baisse des rendements physiques et de la rentabilité économique, baisse de la qualité de la vie, bien que le niveau de consommation soit en hausse. La réponse des économistes consistait essentiellement, jusqu'ici, à traiter d'utopistes et d'irresponsables ceux qui constataient ces symptômes d'une crise des rapports profonds avec la nature, dans lesquels l'activité économique trouve sa condition première. Le plus loin que l'économie politique soit allée a été d'envisager la croissance zéro des consommations physiques. Un seul économiste, Nicolas Georgescu-Rudgeon, a eu le bon sens de constater que même stabilisée, la consommation des ressources limitées finira inévitablement par les épuiser complètement, et que la question n'est donc point de ne pas consommer de plus en plus, mais de consommer de moins en moins. Il n'y a pas d'autre moyen de ménager les stocks naturels pour les générations futures. C'est cela, le réalisme écologique.
C'était The DeRacy Code, une lecture de la bibliothèque de C, par Isabelle Lesquer. Épisode 1. Nous savons que notre mode de vie va finir.